oralement les justifications. Et en guise de bouquet final, ils ont découvert que la durée de validité de certains capteurs utilisés par l'électricien pour tester ses engins allait expirer en plein milieu de la campagne d'essai. Le canard met un petit commentaire. Quel talent! L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est-à-dire l'IRSN, a mis lui aussi son grain de sel dans le chaudron de Plamonville. Dans un avis rendu le 4 septembre à la demande de l'ASN, ses experts s'inquiètent d'un risque d'explosion interne dans le système destiné à traiter les effluents gazeux issus du cœur nucléaire. EDF a bien tenté de les calmer en dégainant les études censées démontrer qu'une explosion n'aurait aucune conséquence grave. Pas de bol, ces garanties ont été jugées insuffisantes par l'IRSN, qui s'interroge désormais sur un possible écroulement de plusieurs locaux techniques en cas d'explosion. C'est un article de Hervé Liffrand qui termine en disant « Mais pourquoi s'angoisser pour si peu ?» Donc c'est ça le problème avec le nucléaire actuel qui est basé donc sur la fission. C'est tout ce qu'il y a autour.
oui, simplement. Oui.
Le PR, il est pas, c'est un truc de troisième génération, donc c'est toujours
ouais.
les mêmes problèmes que première et deuxième en améliorant un certain nombre de choses. Bon, ça marche difficilement. On a perdu l'habitude de faire des centrales nucléaires. C'est un peu ça le problème qui ressort. Bon. Donc, moi, je trouve que le photovoltaïque, c'est sympa.
Oui.
L'éolien, c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut apparemment l'un des systèmes les plus... près des côtes, il y a ces éoliennes flottantes dont on parlait la semaine dernière. Ensuite, il y a le paysage, il y a des partis politiques et sans doute des gens dans les campagnes qui apprécient pas beaucoup. D'autant plus que moi, j'ai déjà campé à côté d'une éolienne. Oh, elle était à, je sais pas, à un kilomètre. Ça s'entend. Ça s'entend. C'est pas silencieux. Ça se voit pas forcément puisqu'il y a des oiseaux qui se prennent les pales en plein vol. Il y a cette histoire que je citais l'an dernier, à la dernière émission la semaine dernière, au large de l'île de Léron, on a un courant d'oiseaux migrateurs et on place des éoliennes pile poil sur leur trajet.
Oui, ce que tu as lu la semaine dernière, oui. Ouais.
Donc là, c'est du pâté, une fabrique.
Oui, de pâté. Oui.
De pâté.
C'est dingue.
Pâté d'oiseau tout près.
Du pâté d'oiseau, il y aura des plumes. Enfin bon.
Oui. Enfin, dans le solaire, il y a. Enfin, dans le solaire, il n'y a pas que les récepteurs pour donner l'électricité, mais il y a ceux pour chauffer directement l'eau. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup dans tous les pays, maintenant, les pays chauds, donc. Mm. Et puis, les pays chauds commencent à ce niveau-là, commencent même dans le nord de la France. Hein.
Mais en Allemagne.
Quand ça donne. Hein, chauffer l'eau, il n'est pas question de température extérieure. Hein, il peut faire moins 5, mais s'il y a du soleil, il y a rayonnement à l'intérieur. Donc, il y a le rayonnement qui est là pour donner les températures. Hein. Ah ouais. Mais ça, il n'y a rien pour l'instant de développer au niveau... Il y a quelques maisons comme ça qu'on voit à la campagne qui ont des panneaux solaires pour chauffer l'eau, mais il n'y en a pas en ville.
Il y a des gens dans les campagnes, ils mettent des tuyaux noirs avec de l'eau dedans, qui laissent, et puis ça fait des douches en pleine nature. Il y a un système quoi.
On faisait ça avec les grandes bassines dehors l'été.
Dès qu'on est dans une construction en ville, c'est vrai qu'il faut quelque chose de plus industriel. Disons.
Pourtant, il y a beaucoup de toits plats, il y a beaucoup de terrasses, il pourrait y avoir énormément de choses. Alors, des éoliennes, c'est pareil, j'en ai jamais vu ici, j'ai vu beaucoup de publicité pour... la Hollande, le Danemark, etc., la Finlande, mais c'est des éoliennes qui sont horizontales, tu sais, qui tournent au niveau horizontal. Mmh. Sur les toits, sur les terrasses, il paraît que c'est formidable. Voilà, de mettre ces éoliennes-là. Il y a toutes sortes, quoi, oui. Ce qu'on veut absolument, nous, c'est centraliser. Voilà, on veut des grosses centrales, on veut que tout passe par une centrale. Ben non. Un village, il peut être autonome au niveau de son courant électrique. Ou il peut avoir tous ces appareils les plus importants, je ne sais pas, qui sont à disposition de la population et que les gens utilisent quand il y a du vent, c'est tout. quand il y a du vent, une éolienne, on met un compresseur qui est derrière, on fait des réserves de d'air comprimé, c'est tout simplement. Quand il pleut, et ben hop, on utilise l'air comprimé dans les bouteilles, et puis on peut faire marcher des voitures avec de l'air comprimé. C'est énormément de choses, la plupart des choses.
Bon, on peut aussi stocker.
Ouais. L'air comprimé, c'est puissant, attention. Hein, c'est, ouais. Ouais. Ben dans les ateliers, j'ai toujours l'air comprimé qui fonctionne dans les pistolets.
J'ai vu qu'il y a des essais aussi par gravitation qui marchent avec des éoliennes. C'est-à-dire que lorsque l'éolienne tourne, elle fournit de l'électricité et il y a un système de levage de masse importante. Et lorsque on a besoin d'électricité, on fait appel à ce système de levage qui relâche donc les masses importantes lentement et ça fait tourner les turbines.
Et ça fait tourner les turbines. Voilà, oui. 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 Alors oui, on peut faire aussi de la chauffe. Hein. On peut faire de la chauffe avec les éoliennes derrière. Hein. On met un frein et puis l'éolienne, elle tourne. Et le frein, bah, il produit de la chaleur. Hein. Voilà. Quand on est mécanicien auto et puis qu'il y a une voiture qui arrive et puis on faut changer les plaquettes de frein, on ne met pas tout de suite les mains sur les plaquettes de frein hein, parce que les freins, ils peuvent être bouillants. Hein.
Ouais.
Voire rouges. Hein. Moi, j'en ai vu en essai. Hein.
Tiens, à ce propos-là, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est une histoire de pneus. J'ai vu récemment, ces jours-ci, dans les articles qu'on trouve sur Internet, je n'ai pas vu dans Le Monde, que les voitures électriques usent les pneus plus rapidement que les voitures thermiques. Ah, ça m'a fait rigoler parce que je crois qu'ils citent des chiffres du genre 20 000 km un train de pneus a changé en voiture électrique. Et il faut dire que ça peut démarrer très vite.
Oui.
Et puis, au niveau ralentissement, il y a des récupérateurs d'énergie, etc. Bon, mais ça peut démarrer très vite. Moi, j'ai une Clio et donc je m'efforce de conduire pour utiliser le moins d'essence possible, évidemment, vu son prix. Et alors, j'ai fait 70 000 km avec mes 4 pneus. Je me dis, mais les gens derrière moi doivent s'énerver. Ça doit être terrible pour eux.
Mais
je conduis
aussi,
absolument sans accélération la plupart du temps, notamment dans Paris, mais également quand je mets toujours en route le truc pour économiser l'énergie qui bride un peu le moteur qui a 90 chevaux. Je me demande bien pourquoi et ils trouvent ça pas assez puisqu'il y a une Clio à 145, ce qui me fait rigoler parce que avant j'avais une 2 chevaux, je sais pas combien, mais il y avait 8 chevaux.
En chevaux réels comme ça, je ne sais pas, il n'y a pas énormément.
Peut-être 45
Oui, dans ces eaux-là, peut-être, oui.
Et
ouais.
Ma foi, elle allait vite, hein, c'était bien. J'allais sur la Côte d'Azur, il n'y avait pas de problème. La distance. En plus, il n'y avait pas besoin d'eau, puisque l'eau devient rare. Bon.
Oui, effectivement, oui, le moteur était...
Mais cette histoire de pneus liés aux voitures électriques, c'est pneus liés aux façons de conduire des gens qui ont des voitures électriques.
Ah, ouais.
Soyons un peu plus sérieux, parce que sinon, je ne vois pas tellement le rapport.
Ouais. Non, la voiture électrique, quand on démarre, effectivement, il y a tout le couple qu'elle a.
Oui,
c'est le couple maximum, il est au démarrage.
Oui,
mais après, plus il tourne vite, moins il peut capter d'énergie sur le rotor, donc... après, plus on accélère, moins ça donne après, plus ça consomme.
J'ai vu sur Internet quelqu'un qui montait dans une grosse Tesla avec. Le conducteur disait à son passager: attention, tu vas voir ce que ça fait. Et donc il roulait déjà et il met le turbo. Et à ce moment, c'est une image évidemment, puisqu'il n'y a pas de turbo, mais il met son système en marche.
Yves, arrête de frapper la table, s'il te plaît.
Il y a une accélération. Ah, excusez-moi, Serge n'est pas là pour me reprendre, donc ça se
voit. Moi, je suis là, moi.
Et donc on voit une accélération qui est gigantesque. Bon, ça se paye en termes de frottement et d'adhérence sur la route. Et donc voilà, il ne faut pas s'étonner si les pneus s'usent plus vite si vous roulez comme des petits fous.
Oui.
Ok, ça nous a bien usé tout ça.
Oui.
Je sens qu'on vous a perdu, chers auditeurs, entre le nucléaire, les voitures électriques, les pompes... Non, les pneus. Les pompes à chaleur, qu'est-ce que je raconte ? The Buzz Non-Radio Show, waouh, et dire que je laisse faire tout ça. N'est-ce pas, les gars ?
Oui, oui.
Qui ne suivent même pas.
Si, si, on te suit.
Qui étaient repartis dans leur conversation.
Ben oui, non.
Et que, tu vois...
Non, parce qu'on s'est aperçu quand t'avais appris des trucs, donc...
Oh ouais, non mais...
Ah ouais. Non mais c'est bon, c'était intéressant quand même, je pense que... Bon, les auditeurs...
C'est-à-dire que je ne contrôle pas ce qui se dit, donc après... Voilà.
Quand même, t'as passé un petit peu de musique quand même là.
Oui, voilà. Après 30 minutes de blabla.
Oh, oui.
Bravo.
Et tu as passé, donc...
J'ai passé les Marine Girls... Moi, j'en parlerai après.
D'accord, oui. Ah, il y a toute une série, non ?
Oui, c'est toute une série, oui.
Et tout le disque est intéressant ?
Oui, j'en touche un mot après.
D'accord.
À moins que...
Je vais lire un truc sur Ronald Craig.
Qui c'est, celui-là ?
Ah, bah, c'est...
Tu sauras après.
Oui, il était connu. Avant, tu lisais Le Monde Libertaire. Oui, c'était arrivé quand plus. Même. L'Union pacifiste, tout ça. Il a fait beaucoup d'articles sur l'écologie, sur... voilà. Ronald Craig, donc, est décédé le 8 septembre 2023. Moi, quand j'annonce un décès comme ça, j'en ai annoncé un tout à l'heure aux espérantistes. C'est pas triste pour moi. C'est au contraire parler de la personne qui a fait énormément de choses. Et puis à un moment, faut bien s'éclipser. Hein. Donc ouais. C'est tout. Hein, c'est comme ça. Ça sera comme ça pour nous tous. C'est bien. Voilà, c'est la vie. Ouais.
Enfin,
la vie. Ça fait partie de la vie.
Ouais.
Donc le 8 septembre 2023, voilà. Alors celui qui écrit, c'est Pierre Sommermeyer. Il est connu, hein, Pierre Sommermeyer. C'est lui qui s'occupe du métron, hein, du.
Ouais. Ah ok.
Voilà, des classements sur le métron et tout ça, de mettre des individus qui apparemment le méritent. Alors, il dit le toubib est arrivé. Ronald donc a été emporté en ambulance. Il était conscient, voilà, conscient, tout ça. Poppy boom, il est décédé à l'après-midi. Pourtant, il m'avait dit je vous appelle tout à l'heure pour vous dire que. Oui, on ne sait pas, mais il devait dire des choses aussi. Encore, ben, c'est bien. Il avait 94 ans.
Ouais.
Le copain qui a disparu, là, moi, la semaine dernière, eh bien, il avait 96. Apparemment, wow. C'est pas mal d'arriver là.
C'est bien,
je pense, hein, d'arriver là. Eux-mêmes le disaient, hein, que c'est très bien déjà.
C'est canonique.
Ouais. Alors, il a vécu jusqu'au bout. Alors, j'arrive du Moyen-Âge, qui disait. Je suis né en 1929 à Alexandrie, en Égypte, et j'ai vécu dans une petite ville où il y avait encore à l'époque des fiacres, des allumeurs de réverbères. C'est fou, ça.
Ça, en Égypte.
Ouais. Il dit les Arabes vivaient dans ce que nous considérions comme des taudis. Il dit, et puis après, il dit non, j'arrête. J'arrête là. Alors, Pierre Sommermeyer, il dit sa vie, son œuvre, pas ici, pas par moi. Il dit, pour ceux qui seraient intéressés, il y a la notice du Métron. Il dit, pour ceux qui voudraient pouvoir lire la suite, il faut aller sur le site de l'Atelier de création libertaire pour pouvoir lire « Ni Dieu, ni paramètres ». C'est là aussi que l'on peut prendre connaissance eh bien, d'une liste qui est non complète hein, de ses œuvres. Mais pas question de faire une notice nécrologique. Voilà, lui aussi, hein, il dit ça, c'est très bien. Alors, cela ne l'aurait pas intéressé, ni moi non plus. Je vais plutôt vous parler de lui et de moi, ou inversement, ou n'importe comment. Ce sera plus à l'image de ce qu'il fut, un peu follé, un écureuil qui sautait de branche en branche, d'une idée à l'autre. Donc, il nous a quittés, je l'ai croisé avant de le rencontrer. Il a fait partie des rares anarchistes de sa génération à penser qu'Internet pouvait être un outil utile. Il fut bien seul. Et j'avais d'abord fait connaissance de son premier site web hébergé par la faculté de Montpellier. C'était tout au début de ce siècle ou à la fin du précédent. J'ai oublié quand je l'ai rencontré, c'était lors d'une réunion de réfraction à la revue qui a fait son centième numéro, je crois, la semaine dernière. Alors cette revue de recherche et expression anarchiste qu'il a fréquentée aussi souvent qu'il a pu. Là, cela a tout de suite matché entre nous. Entre nous deux, comme on dit aujourd'hui, sur ce sujet-là. Donc Ronald nous a quittés sans me demander mon avis. Hormis cette question d'Internet, nous avons rarement été d'accord. Sur quoi porter nos désaccords? Sur tout. Sur rien. Sur l'idée qu'il venait d'émettre et qui avait déjà été chassée par une autre. Difficile de suivre quelqu'un hein, qui était aussi pétillant de vie que producteur d'idées stupéfiantes, séduisantes. Donc Ronald nous a quittés. Mais il nous laisse quelque chose qui relève de l'impossible. RAF Forum. Mais avant, il faut bien que je vous parle de ce numéro 10 de réfraction qui n'aurait pas vu le jour hein, sans que son appui indéfectible et sa participation soient là. Consacré à Internet, un numéro entier de cette revue en 2003 relevait de l'exploit. Ce fut parfois assez mal reçu. Trop tôt, disent certains. Voilà ce qu'il disait, qui correspondait bien à lui. L'internaute est un funambule. Il ajoutait, ce n'est pas une lecture sereine, mais un travail de cirque. Parfois, le cybermonde est inaccessible. L'ordinateur se refuse, crache des explications cryptées ou se tait obstinément. Tantôt, on tombe dans un trou. Tantôt, on roule sur une autoroute parsemée de publicités clignotantes et une avalanche d'informations vous écrase. Parfois, l'écran se fige et la mèche de la souris se colle comme une mouche aplatie sur une fenêtre. Son texte reste d'une actualité douloureuse. Il fut aussi à l'origine du site Divergence, divergence.be, revue libertaire internationale en ligne. Il pensait qu'il ne fallait pas laisser l'anarchisme français enfermé dans l'hexagone. .be, vous l'avez compris, c'est point .belgique. Hein, voilà. Alors donc, Ronald nous a quittés. Je pourrais hein, vous parler de lui pendant des heures. Revenons à RAF Forum. RA, c'était pour recherche sur l'anarchisme. Il fallait qu'il quitte son hébergeur universitaire. Je lui ai offert mes services. C'était en 2003 que le transfert eut lieu. RAF Forum contenait un nombre d'informations plus intéressantes les unes que les autres. J'ai bien tenté tout au début d'y mettre un peu d'ordre. Sans succès, j'ai laissé le fleuve faire son lit. Marianne Henkel, connue aussi, disait qu'il cherchait une information devenait une quête philosophique. Il y avait des articles en français, 3226, hein, en anglais, 2525, en espagnol, 349, en espéranto, 11, en italien, 397, en portugais, 185, oh là là, en allemand, 39 et en chinois, 50. Donc, à propos de cette partie, voilà ce qu'il disait quand, ne pouvant plus s'occuper de son œuvre en chantier permanent, hein, le CIRA de Marseille a décidé de l'héberger. Il faut savoir que c'est le site @chinois le plus important au monde. Hélas, guillemets. Ronald nous a quittés, mais il reste là avec nous. Alors, il faut aller sur archive.cira-cira-de-marseille, quoi, c'est tout. cira-marseille.info. Forum, c'est Pierre Sommermeyer hein, qui est à la FA de Strasbourg qui nous informe de tout cela. Salut Pierre.
Non Radio Show, Radio Libertaire 89.4, c'est sur Paris. Avant que je ne sombre dans l'apathie, Radio Libertaire, c'est aussi radio-libertaire.org et également anarchiste.info. C'est les deux sites où vous pouvez écouter en streaming, télécharger des podcasts et puis avoir d'autres infos. Et puis également sur DAB+, en DAB+, il me semble. Est-ce que je me trompe, dit. Je sais toujours pas si on y est ou pas.
En ce moment?
Oui.
Non. On pourrait s'y mettre. On a, au niveau technique, on a tout ce qu'il faut.
Il faudrait que je demande pour être sûr de donner les bonnes infos. La prochaine fois, c'est vrai que j'ai complètement oublié. Alors voilà, avant que je laisse de nouveau la parole à mes camarades qui l'ont déjà suffisamment prise à mon goût.
Tiens, je vais reparler ce jour sur l'énergie. J'avais un petit truc auquel je n'ai pas pensé sur le moment.
Ah d'accord, ok, je te laisse la parole, mais après je la prendrai.
Oui,
non, bah vas-y, tant qu'il est là. Il est encore tôt, les auditeurs ne dorment pas encore. tu peux les assommer, ça va les aider à dormir.
Pardon. C'est un petit article de Jean-Luc Super. Porquet, qui est toujours dans le canard enchaîné du mercredi 18 octobre. Et il écrit, parfois surprise, sur « J'ai eu l'idée ». Elle vient d'un endroit inattendu. Elle est formulée avec clarté et vigueur. Astrophysicien connu pour ses cris d'alarme écolo, Aurélien Barreau s'interroge dans son dernier livre, à savoir l'hypothèse K chez Grasset, sur le rôle de la science face à la catastrophe écologique. Alors, il rappelle, l'auteur, donc, que le réchauffement climatique n'est qu'une petite partie du problème, que toutes les études montrent que la vie s'effondre sur Terre, que les humains ne sont pas épargnés. Bon, et il s'arrête un peu sur le nucléaire.
Si un jour cette technique donne les résultats espérés, elle constituera une révolution par l'humanité, car à la différence de la fission actuellement utilisée dans le réacteur nucléaire, cette énergie des étoiles, disent-ils, sera propre et abondante. Régulièrement, des chercheurs, des éditorialistes et des industriels agitent cette grande promesse. C'est sûr, un jour, ITER, le plus grand projet scientifique mondial actuel, lancé en 2007 à Cadarache par 35 pays, épatera l'univers. Mais demande Aurélien Barraud, une source d'énergie presque propre et presque illimitée, est-elle vraiment souhaitable? Là, ça vient le pavé dans la mare. Pour la quasi-totalité des scientifiques, la réponse positive est une évidence. La question ne se pose même pas. Qui n'applaudirait pas une énergie qui ne dégagerait pas de CO2, ne réchaufferait pas la planète et nous permettrait de rouler, de voler, de chauffer et de climatiser à volonté? Monsieur Barraud nous fait atterrir. Dans l'état actuel de nos désirs et de nos valeurs, il ne fait aucun doute que cette énergie serait utilisée, je le cite, hein, c'est entre guillemets depuis le début, pour amplifier le gigantesque chantier de destruction systématique du vivant, du fragile et du précieux. Et de rappeler qu'aujourd'hui, nous utilisons largement l'énergie pour raser les forêts, dévaster les fonds marins, bitumer les montagnes, éradiquer les espaces de vie. Loin de constituer une solution miracle, disposer d'une énergie propre et abondante contribuerait tout à l'inverse à décupler la catastrophe. Cette évidence, qu'on pourrait presque dire factuelle, demeure étonnamment impensée. Et sa prise en compte renverserait pourtant toute la logique de notre appréhension du nécessaire et du requis. Donc Jean-Luc Porquet continue en disant « Voilà de quoi réfléchir. Doit-on espérer que la science règle par miracle les problèmes qu'elle a largement contribué à créer? Doit-on croire que la découverte d'une énergie illimitée transformerait les magnats de la Silicon Valley comme Jeff Bezos ou Bill Gates qui misent actuellement des fortunes sur la fusion en abbé Pierre désintéressé? Et les généraux de toutes les armées du monde en douze adieux bonas, doit-on croire que la profusion foisonnante d'objets, de programmes, de véhicules, de gadgets ne s'accélérerait pas? Doit-on s'attrister du fait que les spécialistes de la fusion ne réussissent pour l'instant qu'à maintenir une température de 100 millions de degrés Celsius pendant 30 secondes? En plus?
Non, mais voilà. c'est pas bête comme réflexion.
Oui.
Moi, je pensais jusqu'à présent, en pensant par exemple à des histoires de science-fiction, que justement, au contraire, ça mais allait...
Il n'y a qu'un moment où on n'a pas parlé actuellement, on en parle,
ça allait
ça
libérer complètement l'humain d'un tas de choses nuisibles, et c'est vrai qu'il n'a pas tant, en fait. Mais
l'économie d'énergie,
moi,
le
bêtement,
seul moment où on a
bêtement,
parlé, c'est jusqu'à...
Bêtement, si une énergie, imagine, je ne sais pas... qu'un chercheur découvre un truc illimité, gratuit, qui se produise comme ça tout seul, plus ou moins que personne ne puisse en profiter et tirer des profits, c'est-à-dire qu'il y aurait toute la chaîne de distributeurs, producteurs, etc., de consommateurs, qu'en fait ça allait nous libérer. Mais en fait, il n'a pas tort. Est-ce que ça libérerait d'un côté, ça accentuerait. Ça décuplerait la catastrophe de, en plus.
Oh yeah, oui,
encore
oui,
plus,
oui,
pardon.
Oui.
Oui. Oui. Oui. Oh, d'accord. C'est comme ça qu'il finit.
Oui.
Walter and John were friends for years after meeting at first at 7 years old. When Walter and John built tents in the garden, and it was more fun if the weather was cold. But they never slept, not even a wink. You say, well, what was the point? Well, what do you think? As close in the soul as my brother and me,
run into their teens. They went hand in hand, skipping into the sea on some far distant strand. Walter and John broke new ground together.
Buzzdun Radio Show. Ce soir, la programmation musicale, c'est donc retour vers le passé, et plus exactement mes chères années 80. Alors, si vous n'aimez pas les années 80, bah, c'est trop tard. C'est ça qui passe depuis tout à l'heure. Donc, cette programmation musicale, c'est juste deux compilations. Alors, l'histoire de ces deux compilations, c'est d'abord le label Cherry Red, c'est un label anglais qu'à l'époque on pouvait qualifier de branché, de hype, un peu comme ça, de jeunes gens modernes. De l'autre côté de la Manche, et donc un jour, un des membres du label arrive un matin et dit « J'ai une idée », c'est en 1982. J'ai une idée, on va sortir. Il la soumet au boss du label, Ian McKay, et l'autre c'est Mike Always. Et il lui dit, j'ai une super idée, tu vas voir. Et si on la met en pratique, ça va booster les choses. On a plein de gens sympas sur le label, Ben Watts, Tracey Thorn, Felt, etc. On va sortir une compilation, mais à une condition. Cette compilation, on va la vendre moins d'une livre. C'est-à-dire qu'on va même la vendre à 99 pence. Alors imaginez en 82, 99 pence. Je ne sais pas combien était le franc à l'époque, mais enfin, ça ne représente pas grand-chose, quoi. C'était comme si c'était à la limite un franc la compilation, quoi. En vinyle, hein, et cassette.
Une livre, ça devait faire 16 francs, non ? C'est comme ça, une période.
Une livre, 16 francs.
16 francs.
T'es sûr ?
C'est un souvenir, donc ça, je sais
donc,
pas.
Donc,
pas vérifié.
Donc le boss du pat le boss du patron, j'allais dire non, le boss du label lui dit écoute une compilation de je sais pas d'une quinzaine de titres à une livre 99 pence, si t'imagines pas on va vendre, ça va être à perte quoi. Il faut négocier avec la production du disque physique, il faut négocier avec les artistes eux-mêmes, il faut négocier avec le distributeur, enfin, il faut négocier avec un tas de gens pour leur faire comprendre que, bah, ils vont pas toucher un rond sur cette compile, quoi. Voilà, ce sont tous plus ou moins des jeunes artistes, des jeunes musiciens. Et là, tu leur dis, écoute, on va rien vous donner. On fait un coup pour se faire un peu plus connaître, un peu plus élargir notre audience. Mais finalement, les choses vont se faire. Et cette compilation qui s'appelle Pillows and Prayers, bon, bah voilà, ça s'appelle comme ça, des oreillers et des prières, va sortir. Et ça va être un succès énorme, en fait. Cette compilation va rester pas moins de presque un an classé dans les classements de labels indépendants en Angleterre et 19 semaines numéro 1. Ce qui entraînera évidemment le succès des personnes du label qui, elles également, vont aussi engranger les ventes de disques. Et elle est accompagnée d'une seconde. Alors, sur cette compilation, par exemple, on s'est déjà écouté Five or Six, Felt, les Marine Girls. À l'instant, Ben Watts et Robert Wyatt, qui étaient déjà connus avec Soft Machine depuis les années 70. Et le Japon demandera sa compilation à lui. Et ils sortiront un peu sur le même principe, mais je ne me souviens plus si au même prix, mais peut-être pas. Ils sortiront une autre compilation différente avec d'autres titres au Japon en 1984. Donc ces deux compilations forment le programme de ce soir, ces deux disques que j'ai là. Ces deux disques sont parus en 2000. Je l'ai acheté il y a quelques temps. C'était de la musique que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et voilà, c'est l'histoire de ces deux disques et de ce label Cherry Red qui existe toujours en 2023. Donc voilà, c'est son histoire, c'est l'histoire de qu'est-ce qui se passe avec mon fond sonore. Ah voilà, la mer s'est barrée. Ah, il oui. n'y a plus de vagues.
Oui, c'est marée basse. Oui.
Ah. Ah. Ah, c'est le moment d'aller voir de la mer inhospitalière là, en ce moment. Hein, de la mer froide, avec du vent, glacial et tout ça. Là, c'est
ouais,
l'époque.
Ouais.
On retourne en Bretagne, Yves.
Oui, ça a son charme quand même. Hein, ouais. Mm.
Bah,
on s'habille bien.
Puis, c'est ouais. une possibilité, mais. Je sais pas.
Mais il n'est pas trop chaud, hein, quand même.
J'y ai pensé, on va dire.
Ah, tu vois.
Mais j'ai des rendez-vous.
Aïe.
À Paris.
Donc voilà pour la programmation de ce soir, qui continue avec un autre titre extrait de la première, de celle de 83, et c'est. Kevin Coyne cette fois-ci.
Bluebird, I'm with you wherever you fly, go. I'm feeling sleepy with this love, feeling the flow. Yes, there's love, love from your heart drifting right down, reaching my soul. It's only love, love from your heart drifting right down, reaching my soul. I know that I was always crying, the sighing has disappeared. I found your little island so full of love, and I'm coming down to find love, love in your heart drifting right down, reaching my soul. I'm finding love, love in your heart drifting right down, reaching my soul. I'm finding love, love in your heart drifting right down, reaching my soul. I'm finding love, love in your heart drifting right down, reaching my soul. I know that taking care of you is what I'll do when I arrive. I'm coming, let's be good friends. I love you so, although we've never met. I know there's love, love in your heart drifting right down, reaching my soul. I know there's love, love in your heart drifting right down, reaching my soul. I know there's love, love in your heart drifting right down, reaching my soul. I know there's love, love in your heart drifting right down, reaching my soul.
Tick-tock, go the death watch, Beatles in El Presidente's will. Pop-pop goes the Krieger Magnum at the reading of the will. Hiss-hiss goes the snakeskin wallet stuffed with Cruziero bills. Here we come, the jet set junta. Here we come, the jet set junta. Vroom-vroom goes the armored Cadillac through Montevideo. Rat-a-tat go the submachine guns to restore the status quo. Snip-sip go the tailor's scissors on the suit at Savile Row. Here we come, the jet set junta. Here we come, the jet set junta.
Les morceaux sont courts. Les morceaux sont assez courts sur cette compilation. À l'instant, c'était le Monochrome 7, Jet Set Junta. Oui, allô.
Oui.
Oh, mince.
Oui, oui. Voilà.
Désolé.
Moi, j'ai un petit truc.
J'ai appuyé sur le mauvais bouton.
Ah bon?
Tu veux dire quelque chose sur un sujet? T'as un sujet?
Ouais, j'avais un sujet.
Alors j'embraye.
J'ai tourné les pages, tu peux embrayer si tu veux.
Ah, ouais.
Alors il y a un petit dessin, page. C'est quoi la page d'ailleurs? On s'en fout, mais enfin bon. Page 4 dans le Canard Enchaîné du 18, toujours octobre. Un petit dessin. Alors chef, ça a donné quoi les 400 millions claqués en conseil? Alors on voit, il y a un immeuble marqué Atos dessus. Et réponse du mec, ils m'ont dit suivez votre intuition. Et du coup, on explose la boîte. Alors ça m'a donné envie de lire l'article parce que j'ai trouvé ça rigolo, 400 millions de claqués en conseil pour une intuition à suivre. Et donc, c'est sympa. C'est qui les intuitionnistes, les gens qui... Alors, il y a les consultants du Boston Consulting Group et de McKinsey. Ah, McKinsey est omniprésent. Alors, depuis l'annonce de son plan de scission, le 14 juin 2022, le groupe aurait dépensé près de 400 millions d'euros pour rétribuer boîtes de conseil, banquiers, avocats et ex-dirigeants.
C'est énorme quand même.
C'est, c'est d'autant plus que Madame Anne-Sophie Dandelot, qui est la co-dirigeante du SIAM, et le SIAM, c'est le fonds d'investissement qui possède Atos. Elle dit « ce projet n'a pas de sens ». Elle dit « c'est un deal broker, comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'il n'enrichit que les banquiers, avocats ou consultants qui conseillent les directions de l'entreprise ». Et le Canard ajoute « donc pas faux ». Pour mener à bien son projet de scission, Atos aurait, selon plusieurs sources financières, dépensé aux alentours des 400 millions d'euros, ce que l'entreprise contactée par le Canard ne dément pas. Alors, ça peut paraître astronomique qu'on décrypte un dirigeant qui connaît bien les maisons, mais il faut comprendre la psychologie de Bertrand Meunier. C'est le patron qui vient de démissionner. Hein. Il a gagné 500 millions d'euros en investissant dans des boîtes non cotées, en private equity. Il n'a pas la même notion de l'argent que le commun des mortels. Ah, je comprends, oui. Alors, Atos, c'est une boîte qui est lestée d'une dette de 9,5 milliards d'euros. Il y a eu 4 patrons en 4 ans. Le président du conseil d'administration d'Atos, qui est le fleuron français de l'informatique et du cloud, Bertrand Meunier, résident fiscal à Londres. Ça, c'est quand même... Il n'a pas attendu l'Assemblée générale
extraordinaire
prévue.
Micro.
Qu'est-ce qu'il a, micro? T'entends pas?
Non, t'es pas devant.
Il n'a pas attendu
l'Assemblée... Ah, il y a un problème, on t'entend mal.
Je dis, il n'a pas attendu la fin de l'année pour tirer sa révérence. C'est le 14 octobre, tu entends là?
Ouais, c'est oui. Bon.
Le 14 octobre, le dirigeant octobre. De plus en plus contesté au sein du conseil d'administration a préféré démissionner plutôt que de se voir limogé par les actionnaires. Quatre jours plus tôt, donc, le fonds d'investissement SIAM, détenteur des titres d'Atos, avait porté plainte devant le parquet national financier après le fonds Alix AM pour information fausse ou trompeuse. Et ça, c'est entre guillemets, information fausse ou trompeuse. Et dans la ligne de mire, il y a la vente au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, j'ai déjà entendu ce nom plusieurs fois récemment, de la branche d'infogérance d'Atos et une prise de participation minoritaire, 7,5%, dans celle qui recouvre notamment la cybersécurité et les supercalculateurs, entre parenthèses, indispensable à la dissuasion nucléaire. Ah, bon, bah là, il faudrait faire attention, effectivement. Donc, Anne-Sophie Dandelot dit que ce projet n'a pas de sens. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Atos, donc, qui a été lesté d'une dette de 9,5 milliards d'euros, s'est entouré pour mieux se vendre d'une myriade de conseillers, tous plus capés les uns que les autres. Le premier poste budgétaire, les consultants du Boston Consulting Group McKinsey, qui ont pour mission d'auditer les activités du groupe, puis les banques d'affaires. Rothschild a décroché la timbale. Une fois l'opération bouclée, la banque où Emmanuel Macron a fait ses classes se verra octroyer des millions d'euros d'honoraires. Enfin, la société de conseil financier Perella Weinberg Partners a elle aussi été conviée aux AGAP, tout comme les banques BNP Paribas et JP Morgan, chargées de la restructuration financière. avocats d'affaires, lobbyistes et autres communicants n'ont pas été oubliés. Et puis, il y a les dirigeants d'Atos eux-mêmes qui ont pillé leur boîte, accusent une pointure du monde des affaires. Donc, Madame Odile Benyaya Kouider, qui écrit l'article du Canard et que je cite bien volontiers, écrit ensuite « Drapeau breton en berne ». Considéré comme le principal responsable de la Bérézina actuelle, Thierry Breton, PDG du groupe de 2009 à 2019, et qui rêve de conduire la liste macroniste aux prochaines élections européennes, est accusé d'avoir fait grossir le groupe d'informatique à coup de rachats mal digérés. Alors, il a été nommé commissaire européen au marché intérieur le 1er décembre 2019, et à ce moment-là, il s'est délesté de toutes ses actions pour la modeste somme de 45,7 millions avant impôts, millions d'euros. Bien sûr, il aurait pu les confier à un mandataire, mais il a préféré vendre ses titres quand ils cotaient 70 euros. Sacré sens du timing, aujourd'hui, elles évoluent sous la barre des 5 euros, mais ce n'est pas tout. Une fois retiré de la vie active, Thierry Breton bénéficiera d'une retraite chapeau, régime complémentaire, d'un montant de 711 000 euros par an. Atos a dû décaisser 20 millions d'euros d'un coup pour assurer cette magnifique rente à vie. 711 000 euros par an. Bon, ces petits cadeaux n'ayant désormais plus cours, son successeur, Élie Girard, a été privé de retraite chapeau lors de son départ fin 2021. Idem pour Bertrand Meunier.
Il y en a pas pour tout le monde. Hein.
Idem pour Bertrand Meunier, qui quitte le groupe sans même un parachute doré.
Vu que l'autre rapace de Breton, il a tout
Le multimillionnaire aura tout de même perçu une rémunération de 400 000 euros par an pour un bilan pas très reluisant. Plus petit joueur, Édouard Philippe, puisqu'il est aussi passé par là, qui pensait entrer dans un conseil d'administration pépère pour se mettre un peu de beurre dans les épinards d'ancien Premier ministre, a démissionné en mai 2022 en empochant près de 120 000 euros en 18 mois. Mais la palme revient à Rodolphe Belmer, bombardier directeur général d'Atos le 1er janvier 2022. En désaccord avec le découpage de la boîte d'informatique en deux morceaux, l'ex-patron de Canal+ a activé son parachute doré au mois de juin de la même année et a touché 3 millions d'euros pour 6 mois d'exercice. Tout ça avant de rebondir chez TF1. Conclusion de Madame Odile Benyaya Kouider. Elle est pas mal la vie chez Atos ? On comprend que Kretinsky soit candidat au rachat. Ben oui. Ce qui est quand même grave, je trouve, c'est que la partie qui veut racheter, là, je ne sais pas ce que fait l'État, ils s'en foutent peut-être, mais la participation minoritaire de 7,5% dans la branche qui recouvre notamment la cybersécurité et les supercalculateurs indispensables à la dissuasion nucléaire, j'imagine que il y a quand même des gens qui font attention.
Puis on se demande aussi pourquoi M. Breton, qui s'est déjà goinfré, plus que goinfré, ne se met pas à la retraite, là. Pourquoi il veut se présenter sur une liste ?
Parce qu'il est jeune et vigoureux.
Non, c'est parce qu'il veut. Je pense qu'il veut encore faire de l'entrisme.
Oh là là,
je pense qu'il veut
encore.
Je ne sais pas trop ce qu'il veut faire, mais enfin, on s'en doute qu'il veut continuer à.
La vie est belle.
À se faufiler, à profiter. C'est juste écœurant.
Servir, ils se servent tous, là. Ils sont. Oh les chiens, c'est vraiment des.
Ah, c'est du rapace, ça. Hein. C'est du vautour. Et après, quand tu dis. Les élites, machin, on te traite de complotiste. C'est clair, ça se goinfre allègrement, quoi.
Oh là 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 là.
3 millions pour 6 mois d'exercice, ou 4, ou je sais pas combien.
6 mois d'exercice, c'est vrai, on n'a pas l'habitude. Allez, pour un an, on va faire un gros calcul. 3 millions pour 6 mois, ça fait, pour un an, allez, 6 millions. Mais en plus, j'imagine qu'au bout d'un an, il y a une prime pour avoir tenu un an, donc c'est peut-être plus.
Il y a une prime en plus.
Ça me fait rigoler.
Ah bon ?
Bah oui.
Non, moi ça me fait pas rire. Moi ça m'écœure allègrement. Pas allègrement non plus. Mais bon, c'est juste désespérant, quoi.
Oui.
Donc après, tu dis les élites ceci, les élites cela, et on va te dire...
J'appelle pas ça des élites. Moi, j'appelle ça un petit groupe de gens qui sont dans une sorte de système avec mariage entre eux, rencontre entre eux, voyage entre eux, etc. Et qui sont déconnectés du reste du pays.
Enfin, tout en profitant de ce que peut leur offrir le pays au plus haut niveau.
Ah, c'est pas qu'ils en profitent, c'est qu'ils le dépècent.
Oui, mais ils en profitent. Ils profitent de le dépecer. Ils profitent du dépeçage.
Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui.
C'est, voilà, c'est... Pff,
on c'est a surtout... Moi, je sais, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui est nommé directeur général d'une boîte. Alors, il ne connaît pas très bien le truc. Et donc, c'est déjà surprenant qu'il soit nommé directeur général d'une boîte s'il ne connaît pas très bien le truc. Mais non seulement ça, mais au lieu de faire appel aux collaborateurs qui sont là et leur dire « Expliquez-moi la situation, qu'est-ce que... etc. Montrez-moi ceci, montrez-moi... Ouais. » Il fait appel à une boîte de conseil. Ça fait rigoler, la boîte de conseil ne connaît absolument rien à la boîte qu'ils vont essayer de décortiquer pour comprendre le fonctionnement. Ils le comprendront certainement moins bien que tous les gens qui sont sur place et qui vont leur expliquer comment ça marche. Donc il va y avoir un filtre. Ils vont réorganiser ça à une sauce qui peut leur être avantageuse après tout. Je ne comprends pas pourquoi il y a le dernier patron avait son truc qui était domicilié en Angleterre. Je suis peut-être un petit peu chauvin déplacé, mais s'il y a des trucs qui concernent la défense nucléaire à laquelle je suis bêtement assez attaché, ne serait-ce pour des questions de sécuriser, non pas que j'aime la bombe, mais disons, puisqu'on l'a, il faut faire gaffe, je ne comprends pas que quelqu'un qui est nationalisé, enfin qui est de nationalité, je ne sais pas, Bertrand Meunier, il est résident fiscal à Londres. Donc il est français, il est anglais, je ne comprends pas très bien. Pourquoi résident fiscal à Londres ? Enfin bon, c'est les joies de la finance.
Thank you. Middle East. This boy eased his way up the silver Thames. But what is that this boy deserves? Oh, he needs love, an everlasting love. Give him. Everlasting, everlasting love.
Parlons d'autre chose, puisqu'il faut bien parler d'autre chose.
On va parler de l'eau, ça risque rien.
Et nous évader un peu, enfin sortir un peu de cette sphère polluée et polluante de nos chers, notre chère élite politique et financière. Je voulais dire un mot sur une revue. Nous sommes allés cette semaine, le week-end dernier, à une séance de lecture de textes extraits de la revue Dissonance, où a écrit une de nos amies, Patricia, pour ne pas la citer. Dissonance, revue que vous pouvez également trouver à Publico. Et donc, alors ça s'est déroulé dans une librairie, un café, enfin un café librairie ou librairie café assez sympa qui s'appelle L'Ours et la Grille. Alors, ne me demandez pas pourquoi l'ours et pourquoi la grille. C'était une soirée sympa, somme toute. La librairie très jolie, très sympa. Et donc, cette revue Dissonance, c'est le numéro 45 de l'hiver 2023. Et elle coûte la modique somme de 8 euros. Il y a un thème par numéro. Le thème de ce numéro, c'était toxique. Voilà. Toxique comme tous les gens dont on parle là depuis tout à l'heure, avec de très très belles excusez-moi, illustrations d'une dame qui s'appelle, je la retrouve, Armel Le Golvan, vraiment très belles illustrations. Et dans, alors ce sont des textes, hein, les gens envoient des textes, il y a un comité de lecture. Est-ce que j'ai dit qu'il coûtait la modique somme de 8 euros? Oui.
Oui, oui.
Et 64 pages, donc il y a toutes sortes de textes dans toutes sortes de styles. Donc la revue lance un appel d'offres tout à fait celui-ci sympathique avec un thème. Et propose qu'on lui envoie des textes qui sont sélectionnés donc par un comité de lecture. Et juste, je voudrais dire un mot d'un de ces textes. Il s'agit du texte de Julien Boutreux, Herbier des poisons mortels. C'est un extrait, je ne vais pas lire forcément, mais on pourrait leur proposer un bon repas. Alors, on y mettrait de l'aconite, de l'adonide, de l'aristoloche, de la ciguë, de la coloquinte, du datura ou de la datura, de la digitale, du ficaire, de la fougère, du pavot et de la tanaisie.
Bon appétit.
Alors, il faudrait quand même leur faire avaler, parce que, par exemple, l'adonide... qui est une fleur solitaire aux huit sépales, glabre d'un rouge éclatant, taché d'une lune noire à leur base, s'élève depuis une souche brune et ligneuse, surmontant une tige parfaitement lisse, ses feuilles d'abord en écailles s'échangent vers le sommet en lanières filiformes, délicatement dentelées. Et il faudrait quand même mettre pas mal de sucre dedans, parce que... elle a une saveur très amère qui finalement, dit le petit texte, se perd insidieusement dans la farine du blé récolté qu'elle empoisonne. Donc oui, il faudrait mettre du sucre. Sa consommation, c'est ça qui est le plus sympa. Sa consommation provoque d'abondantes diarrhées rebelles à tout traitement qui aboutissent inéductablement à la mort par déshydratation et avachissement extrême. Donc tu finis complètement à plat dans ton caca. Voilà. Bon, je vais pas faire les autres, mais toutes ces plantes n'attaquent pas toutes les mêmes organes.
Ça va.
Elles s'attaquent les intestins, elles s'attaquent le cœur souvent. Alors, il y en a une quand même, et ça sera la dernière, la dernière chose que je dirais sur ce texte, parce que je vais pas trop l'utiliser. C'est la ficaire. Je savais pas du tout qu'une plante pouvait faire ça. Alors, on peut consommer sans risque. Et comme du cresson, les très jeunes feuilles, pourtant amères. Par contre, les tubercules, mâles, même bouillis, sont un poison redoutable dont l'ingestion fait éclore une myriade de minuscules fleurs de pu jaunes et de sang vermillon sur la langue. Celle-ci, tiens, ça c'est pour les beaux parleurs qui nous assomment à longueur de programmes télévisés et radiophoniques. Celle-ci y creuse ensuite autant de petits cratères noirs. Quand la langue a pris l'aspect d'une tranche de gruyère, la mort suit de peu. Le temps file sur Radio Libertaire de Poste Non Radio Show. Bon.
Oui, j'ai un article très court. Alors, le titre, c'est. Ça vient du bunker, hein, le bunker. Débunker le révisionnisme puifolesque. Puifolesque, c'est le puits du fou.
Oui.
Ah. Vous l'avez. Oui.
J'avais suivi, je vois.
Il faut le débunker, apparemment, c'est comme un. Ça paraît un peu impératif, là, voilà. Alors, vous avez vu tout de suite sur quoi ça va causer.
Ah non, pas du tout.
En quelques lignes, c'est le groupe Ori Labori, donc c'est Fab, Fabrice sans doute, Fab, ou je ne sais pas, il y a d'autres, d'autres noms avec, qui commencent par Fab. Donc, un peuple de paysans se soulevant pour venger son roi et sauver sa foi. Si ce synopsis pouvait faire un scénario divertissant pour un film, héroïque fantasy, comme ils mettent.
C'est la Vendée.
Entre guillemets, hein.
Les Vendéens.
Oui. Et il devient plus inquiétant quand il est brandi comme vérité historique pour le peuple du Bas-Poitou. On le voit encore de nos jours, les peuples détestent les autocrates et se rebellent sous de multiples formes. Manifestations syndicales, mouvements des gilets jaunes, soulèvements de la terre, émeutes des cités, etc. quoi. Dès le XVIIe siècle, le Bas-Poitou connaît de multiples rébellions menant parfois à l'exécution populaire de percepteurs des impôts royaux. Après la confiscation des biens du clergé en 1789, la paysannerie attend une retombée sur son niveau de vie. Mais la révolution ne profite qu'à la bourgeoisie urbaine. Quant à la noblesse, elle garde ses richesses grâce à la sacralisation du droit de propriété. Donc l'augmentation des impôts accroît, alors accroît le mécontentement, hein. La chasse aux curés réfractaires qui tolèrent les pratiques et croyances locales, ainsi que la centralisation du pouvoir parisien, engendre une réorganisation politique locale très désavantageuse. En 1793, un événement met le feu aux poudres, c'est la levée en masse de 300 000 hommes pour l'armée républicaine. Dès lors, des rassemblements contre-révolutionnaires éclatent et engendrent chouannerie et guerre de Vendée, et ce pour des raisons plurifactionnelles. Plurifactorielles, oui, bien sûr, de divers facteurs, mais même au sein de l'armée vendéenne, les paysans et paysannes gardent leur autonomie face aux généraux impuissants. Nombreux sont les soldats d'un jour, qui ne combattent que près de leur village, pour y retourner dès que les troupes s'en éloignent, et qui n'obéissent pas plus aux généraux qu'à la noblesse locale. Ainsi, la paysannerie du Bas-Poitou n'a pas plus combattu pour un tyran que pour une religion. Elle s'est battue contre la centralisation étatique, sa surimposition et la conscription, et pour défendre un mode de vie, une autodétermination et une meilleure répartition des richesses, suite à la désillusion de la révolution bourgeoise de 1789. Et tout cela parfois au cri de « ni roi, ni loi ». Voilà, c'est Fab.
Bah, je croyais qu'il se battait justement contre les révolutionnaires pour le retour de la monarchie. Enfin, je sais pas.
Non, mais ça, j'ai lu ailleurs, peut-être dans Piketty, sur.
Pas partout, alors,
sur,
oui.
Sur l'idéologie, ou sur le précédent encore, hein, et puis dans d'autres bouquins aussi précédemment. Les paysans ont été extrêmement déçus, et peut-être. Pas que d'ailleurs, parce que les biens de l'Église, par exemple, qui ont été confisqués, ont été mis ensuite aux enchères. Qui a acheté ces biens de l'Église ? Ben, c'est les gens qui avaient de l'argent, donc les nobles ou les gens qui avaient du fric dans les bourgeois. Au sens des gens qui avaient pas mal d'argent. Et donc eux, sauf de rares cas peut-être, ils ont statistiquement pas pu racheter les terres et les biens, pas seulement les terres, et les biens de l'Église. Et donc il y a eu effectivement en Vendée, ça j'avais déjà lu, ça a été un fort mécontentement parce qu'ils ont vu s'échapper des possibilités de réorganisation de la propriété et il n'en a pas été question en fait, ça leur est passé sous le nez. Moi j'avais un truc sur l'eau. Et les métabolites, je ne sais pas si j'ai le temps.
Mais si.
Alors, il est question de beaucoup de jeux de mots, c'est comme ça que j'ai été attiré par l'article, c'est du genre « au secours » en deux mots, hein, « au E-A-U secours », la pollution de moins en moins potable, ensuite quelque chose du genre « à la queue comme tout le monde », « à L' apostrophe à queue comme tout le monde », bon bref, ou encore « est-ce que l'opéra » en 1, 2, 3, 4, 5 mots, c'est-à-dire « est-ce que l'eau plus loin paiera ». Bon bref, et puis il y a un joli dessin qui est « Remets-moi un verre d'eau », c'est dans un café, il y a un vieux monsieur un peu dégarni disons et un peu édenté qui demande « Remets-moi encore un verre d'eau » à la barman qui lui dit « T'es sûr Roger, c'est ton troisième ?» Bon alors voilà, je me suis dit « Joli » Donc faut-il se méfier de l'eau du robinet ? Un directeur d'ARS recommande dans un message confidentiel de se préparer à boire de l'eau en bouillie. Et c'est un article de Yann Voldoir.
De l'eau bouillie.
De l'eau bouillie, c'est pas ce que j'ai dit ?
Non, t'as dit en bouillie.
Non, de l'eau en bouteille.
Ah non,
je voulais dire de l'eau en bouteille.
Ma langue a chauffé. En bouillie.
Ma langue a chauffé, ça va ?
Ouais.
Contaminée par les polluants chimiques, l'eau du robinet est-elle devenue imbuvable ? Monsieur Didier Jaffre, le patron de l'Agence régionale de santé, c'est ARS d'Occitanie, en est convaincu. Et dans un message envoyé le 23 septembre à ses cartes, que le canard a pu consulter, il lance un sidérant cri d'alarme. Allons croire, le sujet est très chaud bouillant. Ouvrez les guillemets, très clairement, nous allons devoir changer d'approche et de discours. Il y a des PFAS, c'est-à-dire les substances poly- ou perfluoroalkylées, et des métabolites partout. Et plus on va en chercher, plus on va en trouver, fermez les guillemets, écrit-il dans son mail. Traduction, l'eau que nous buvons regorge de polluants dits éternels, les PFAS, et de résidus de pesticides, les métabolites. Elle ne doit plus être consommée, mais seulement utilisée pour tout le reste. Il faut donc privilégier l'eau en bouteille, fermez les guillemets. Alors, utilisée par l'industrie et l'agriculture, les deux familles de molécules citées comptent plus de 5000 rejetons disséminés dans l'environnement. Et si la toxicité de ces produits n'est pas contestée, les effets et leur présence dans l'eau potable sont encore mal connus. Et évaluer les doses journalières admissibles pour l'ensemble de la population reste difficile. Cela n'empêche pas M. Didier Jaffre de mettre les pieds dans la bassine et questionné par le canard sur ses étonnantes déclarations, le dire-l'eau de l'ARS régionale n'a rien laissé filtrer. Alors, ce monsieur, il est diplômé d'un doctorat en sciences économiques, c'est un haut cadre, il est nommé au Conseil des ministres, c'est pas un expert des eaux de consommation humaine. Mais la veille de l'envoi de ce courriel, un séminaire rassemblant tous les directeurs d'ARS s'est tenu au ministère de la Santé à Paris, et c'est à cette source qu'il a puisé l'inspiration de son message. La situation préoccupante de la flotte y a été évoquée, car depuis le début de l'année, les alertes se multiplient. Il y a d'abord eu, je cite toujours l'article de M. Yann Voldoir, il y a d'abord eu en janvier un rapport de Génération Future alertant sur l'omniprésence des PFAS dans les eaux de surface, accompagné un peu plus tard d'un dépôt de plainte contre X pour atteinte à l'environnement. Selon l'Assos Écolo, une part importante de la population européenne serait exposée et les dangers des PFAS en cas de trop forte exposition répertoriée par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, l'ANSES, sont multiples. Augmentation du taux de cholestérol, cancer, etc. Effets sur la fertilité, le développement du fœtus. Ils sont également suspectés d'interférer avec le système endocrinien, donc la thyroïde, et immunitaire. En 2026, un renforcement des contrôles de ces substances dans l'eau potable sera rendu obligatoire. D'ici là, écrit le patron de l'ARS d'Occitanie, le conseil donné est de ne pas les faire. Entre guillemets, j'ouvre les guillemets, le conseil donné, parenthèse pour fin de suspension, il y a quelque chose entre que le canard ne reproduit pas, est de ne pas les faire. Fermez les guillemets, une méthode éprouvée, pas de contrôle, pas de problème. Au printemps, l'ANSES a jeté un autre pavé dans la mare en mettant en évidence la présence massive d'un nouveau polluant dans l'eau, les métabolites du chlorothalonil. Selon les estimations de l'agence, ces résidus de pesticides se retrouvent dans le robinet d'un Français sur deux et dépassent le seuil réglementaire dans un tiers des cas. Un sacré cadeau, ils écrivaient des mots « cadeau » en deux mots.
Oui, tout l'article est une sorte de long jeu de mots et de Voilà.
Là encore, les risques sur la santé ne sont pas clairement établis, sauf que ces métabolites sont le résidu d'un fongicide, le chlorothalonil, interdit en 2020, classé cancérogène probable depuis 2006. La Vienne, qui fait partie des premiers départements à avoir lancé ces tests à grande échelle, a pu constater l'ampleur du problème. 200 000 des 300 000 clients d'eau de Vienne reçoivent une eau non conforme, car pleine de métabolites. Même chose pour le Grand Poitiers. L'eau de 130 000 habitants dans 13 communes n'est pas réglementaire. Qu'à cela ne tienne, le 11 septembre, le préfet a pris un arrêté dérogatoire pour autoriser, malgré tout, sa consommation. Les autorités se veulent rassurantes. Le seuil dépassé n'est pas un seuil sanitaire, mais un seuil réglementaire, explique au canard l'ARS de la Vienne. Vienne Nature, association de protection de l'environnement, s'étouffe. On peut donc avoir de l'eau consommable, mais non potable. Un concept intéressant. Atlantique Eau, en deux mots toujours, qui dessert une bonne partie de la Loire-Atlantique, est lui aussi confronté à ce problème de métabolites du chlorothalonil. Selon les contrôles lancés par ce fournisseur, 490 000 foyers sur les 550 000 servis par ces soins dépassent le seuil réglementaire. Les préfectures n'en ont pas moins refusé de prendre des mesures, au motif, c'est le sapeur Camembert là, au motif que dans le département, cette molécule ne figurait pas au contrôle sanitaire obligatoire. Bien chef, oui chef, quoi. En clair, ce polluant ne fait pas partie des substances censées être légalement recherchées dans l'eau. Pas vu, pas pris, si on ne cherche pas, on est sûr de ne pas trouver. Officiellement, la pollution n'existe pas, conclut Michael Derangeon, vice-président d'Atlantique Eau, qui la trouve son maître. Face à la découverte de ces nouveaux polluants, distributeurs d'eau et défenseurs de l'environnement ont le sentiment de se retrouver dans une situation inextricable. Il y a encore des tas d'autres polluants à chercher, qui ne l'étaient pas jusqu'ici, estime François Veillerette, porte-parole de Génération Future, jusqu'à trouver dans nos tuyaux une eau potable qui ne le serait plus vraiment. Enfin bon, voilà. Et puis juste en dessous, il y a un article de JFJ qui raconte une gaffe qui pourrait assécher les bénéfices de Veolia, parce qu'apparemment, il y a eu un appel d'offres. Actuellement, c'est Veolia, le plus gros contrat aquatique d'Europe, 4,2 milliards d'euros, est possédé par Veolia. Et il y a eu le CEDIF, le syndicat des eaux de l'Île-de-France, qui est contrôlé depuis un siècle par le groupe et qui s'appelait avant la Générale des Eaux. Il y a eu donc un appel d'offres et il y a eu une petite boulette, disons, signalée par Marianne. Une partie des fichiers de l'appel d'offres pour le renouvellement du contrat a fuité. Et à la suite d'un bug informatique, plus de 500 documents, certains présentés par Suez, unique concurrent de Veolia, selon les infos du Canard, ont atterri chez son rival début d'avril dernier. Et donc, qu'a fait le tenant du titre, Veolia? Comme l'a souligné le rapport d'un expert mandaté par le CEDIF, plusieurs de ses cadres, au moins 5, ont téléchargé, copié-collé, renommé et imprimé les pièces du rival. Le CEDIF n'a été prévenu de la fuite qu'une semaine plus tard. La faute, indique-t-on chez Veolia, au week-end de Pâques, qui aurait tout retardé, un week-end à rallonge. Suez, victime présumée, n'a été informée que 15 jours plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Eh bien, le Code de la commande publique, les articles 21, 41, 7 à 11, prévoient la mise hors jeu de l'opérateur fautif. À Suez, donc, le juteux contrat, point d'interrogation. Pas du tout Arveolia qui dégaine la jurisprudence. Enfin bon, là, on est parti pour un certain imbroglio, disons. Voilà.
Alors, tout à l'heure,
potable, mais ici, pas consommable.
Ici, la terre.
Non, c'est l'inverse. Non,
c'est l'inverse.
Non potable, mais consommable.
Mais consommable.
Donc,
oui, non potable, mais consommable.
N'empêche que le directeur donc, de l'ARS, M. Didier Jaffre, il conseille de boire de l'eau en bouteille. Alors, l'eau en bouteille, il y a un autre problème, c'est que le plastique des bouteilles passe dans l'eau. Je crois me souvenir que c'est chez Volvic que ça passe le moins, mais c'est des bouteilles qui existent peut-être plus vu qu'ils ont changé le système de bouchon. Je ne sais pas si l'étude vaut encore pour ces nouvelles bouteilles en plastique un peu plus fragiles de Volvic. Bon, bref, voilà, on est coincé un peu partout.
Alors tout à l'heure, Je me souviens plus si j'ai utilisé le mot appel d'offre quant à la revue Dissonance. En fait, c'était appel à texte, plutôt. Je rectifie, texte. Parce que c'est... Voilà.
D'accord. Oui.
Et puisqu'on est dans l'aquatique, eh ben une petite pause avec les Marine Girls. Radio de Postnon Radio Show. Eh bien, je pense qu'il est peut-être temps de laisser nos amis auditeurs à leur pensée. Certes, on ne les a pas aidés à avoir une soirée tranquille, mais ils le savent, ici, c'est toujours des sujets pénibles qui sont abordés.
On n'a pas parlé de glyphosate, hein, soyons cool.
Oh non, mais attends, non. C'est bon. On a chargé la mule suffisamment, alors qu'on est vendredi soir, et on pourrait les distraire, les faire rire, les faire rêver, etc. Bon, ben voilà, c'est la formule de l'émission en ce moment, on verra. Elle était tout autre avant, elle sera peut-être tout autre après. Après quoi, j'en sais rien. On verra bien. En tout cas, on va peut-être se quitter là maintenant pour ce vendredi soir. Mais restez à l'écoute puisque juste après, je vais m'amuser aux platines. Alors, c'est pas vraiment un mix, mais on va dire que j'ai pris l'occasion d'Halloween. Je sais, c'est une fête commerciale. Bon, on s'en fout. Ça a un côté comme ça. Puis on dit Halloween, puis finalement, on pourrait... parler de la fête des morts, de la Fiesta de los Muertos mexicaine, par exemple, qui est très, très, très importante, avec une culture prédominante au Mexique.
Ah oui.
Et ok, ils en ont fait un truc énorme et souvent commercial, il y a des fêtes, des costumes, etc. Mais on pourrait aussi en faire une référence. Bon, c'est pour le côté fun, sympa, marrant. Et puis voilà, c'est la mort. Elle est là à côté de nous. Quelquefois, ben, elle tente de te happer. Elle n'y arrive pas toujours.
Ouais, non.
Donc, une sorte de comment dire, c'est pas une balade nocturne, c'est une dérive nocturne, on va dire. Et puis ensuite, le programme, démontage dans la nuit, et puis demain matin sera un autre jour sur l'antenne de Radio Libertaire et ses programmes du week-end. Voilà. On s'en va du micro et puis on va s'écouter de la
musique.
On écoute,
oui.
Voilà. Salut Guy, à la prochaine.
Au revoir, ouais.
Salut Yves, à la prochaine.
À la prochaine.
Ouais.
Au revoir.
J'ai
quand même une là. Depuis mardi 3 octobre, c'est dans la Gazette de Val d'Oise. Depuis mardi 3 octobre, trois frères comparaissent mardi prochain devant la cour d'assises de Val d'Oise. Et commentaire du Canard, un procès qui est bien parti pour durer, qui est bien mardi pour durer.
Ah, on n'a rien compris.
Depuis mardi 3 octobre, trois frères comparaissent mardi prochain.
Ah d'accord, oui, ok. C'est une blague du Canard.
C'est pas une blague de canard, c'est un piqué dans la Gazette du Val d'Oise. Il y a toute une série de trucs, par exemple, il y en a. Bon, enfin, bref, je vais laisser.
Enfin, parce bref.
On est obligé de s'arrêter.
Si on ne te coupe pas le micro, là, tu as tellement pris goût à la radio que si on ne te le coupe pas le micro, tu le kidnappes.
Oui, les auditeurs boivent de l'eau, ça en est aperçu aussi. Hein. Merci, ouais. Yves. Donc,
Je vous épargne un truc sur les compas.
Ouais. Ah non, stop pour ce soir.
Au revoir.
Salut, bonne nuit.
Oui.
Et restez à l'écoute si vous en avez envie. Ça vous aidera à vous endormir.
Bien sûr. Oui.
Ciao, bye. Bye.
A mixed up time to enjoy the various things that are left of me, chopping and changing, acting on impulse with time to distress. The unintentional, the pre-planned haze, the well-conceived corridors which lead to a maze, and people laugh while I sit and watch through a distorted view.
The